Séoul au jour le jour. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Le 15 août prochain, la Corée célèbre le 80e anniversaire de sa libération. À cette occasion, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec l'Office national du tourisme de Corée, présente 13 sites parmi les 100 meilleures destinations en Corée, où l'on peut se remémorer la signification du mouvement d'indépendance du pays du matin clair. Objectif, inciter de nombreux citoyens à se rappeler la libération de leur patrie. Nous commençons l'édition de ce mercredi avec cette nouvelle. Cet événement intitulé « Célébration du 80e anniversaire de la libération à travers le tourisme » a lieu durant la semaine de la libération du 11 au 17 août. Les visiteurs reçoivent un magnet commémoratif de la libération, conçu à partir du drapeau national Taegeuki en faisant tamponner leur carnet de visite. Un autre événement baptisé « Mon propre projet de voyage en lien avec la libération » a également lieu. Si on partage son plan de visite des sites et certifie y avoir été sur le site web officiel du programme, on peut participer à un tirage au sort pour gagner un porte-clés en peluche. Un responsable du ministère a déclaré que le but de cette initiative était de dynamiser le tourisme sur le thème de la libération en proposant divers itinéraires de voyage, notamment en reliant les sites concernés à d'autres lieux touristiques à proximité. Selon le ministère, ce projet vise à rompre avec l'idée reçue selon laquelle les événements en hommage aux patriotes doivent se dérouler dans un climat solennel. Il cherche ainsi à encourager les citoyens à se rendre en personne dans ces lieux et à se souvenir du sacrifice des militants indépendantistes tout en profitant du tourisme local. Continuons de parler des événements spéciaux pour le 80e anniversaire de la libération de la Corée. Depuis le 5 août, l'Institut de promotion de la cuisine coréenne organise une exposition spéciale dans une galerie à Séoul. Elle est intitulée « La table de la mémoire, un repas rêvé par les combattants pour l'indépendance de la Corée ». Cet événement a pour but de rappeler, par le biais de la nourriture, les mémoires des patriotes qui se sont dévoués à leur pays. À cette occasion, il est possible de découvrir des photos de combattants décédés sous forme de vidéos restaurées à l'aide de l'intelligence artificielle. De plus, 10 vidéos basées sur les plats dont ils auraient profondément éprouvé la nostalgie sont projetées à l'entrée de la galerie. L'exposition est composée de divers thèmes. Par exemple, les tables que les poètes Yoon Dong-ju, Lee Yuk-sa ou Kim So-ol auraient imaginées, un repas de la famille Dan Jung-geun, une grande figure de la résistance coréenne, ainsi que les derniers repas de militants indépendantistes avant l'emprisonnement ou la mort. Cela permet au public de comprendre leur vie de manière plus vivante. Cet événement commémoratif qui associe la restauration numérique et les contenus liés à la cuisine coréenne traditionnelle offre un moment précieux de mémoire et de partage à l'occasion du 80e anniversaire de la libération. Le président de l'Institut, Lee Kyu-min, explique qu'il vise à transmettre, à travers un repas, les saveurs du pays natal, le souvenir de la famille et l'amour de la patrie que les combattants ont conservé en eux. Il estime que l'exposition est d'autant plus significative qu'elle combine les technologies de l'IA et les contenus culinaires coréens pour présenter une nouvelle forme de contenu historico-culturel. Elle se déroulera jusqu'au 31 août dans la galerie de la cuisine coréenne de l'espace culturel de la cuisine coréenne IUM. L'entrée est gratuite. Maintenant, je vous propose de partager un des commentaires de nos auditeurs. Le 30 juillet, c'était Chungbok, la deuxième canicule de l'année. À cette occasion, le service français est sorti manger dans un restaurant fusionnant cuisine italienne et coréenne. À ce propos, André-Marie a laissé ce message. C'est bon, ça fait envie. Merci beaucoup pour ce commentaire. Et avant d'enchaîner avec le prochain élément, écoutons une chanson. Voici « Daehanjaeguk Aegukka », l'hymne national de l'Empire de Corée de Jung Se-hoon.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Pour cette édition de Séoul le jour du mercredi 13 août, vous êtes en compagnie de Ko Jang-sun. De nombreuses personnes ne savent pas vraiment comment appeler les techniciens de surface. En réalité, il n'existe pas d'appellation unifiée pour les désigner. C'est pourquoi beaucoup les interpellent par « et »,« s'il vous plaît » ou bien « monsieur » ou « madame ». Ces agents disent qu'ils se sentent gênés lorsqu'ils sont appelés par certaines désignations. Pour résoudre ce problème, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a décidé d'unifier l'appellation en désignant ces agents d'entretien des complexes gouvernementaux sous le terme de « 환경실무원 », qui signifie « technicien d'environnement ». Cette décision a été prise lors d'une réunion du conseil de concertation entre le patronat et les employés. Plus de 3800 fonctionnaires contractuels, y compris les techniciens de surface, sont employés dans les complexes gouvernementaux de Séoul, Sejong, Gwacheon et Daejeon, ainsi que dans les organismes rattachés au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ils sont chargés de l'entretien des installations, du nettoyage, de la sécurité, de l'accueil ou encore de l'assistance administrative. Parmi eux, environ 900 sont affectés aux complexes gouvernementaux et 140 aux organismes rattachés. Ils s'occupent principalement du nettoyage des toilettes, des bureaux, des couloirs, des escaliers et des autres espaces du quotidien. Un représentant du ministère a expliqué que l'absence d'appellation claire de ces agents, qui sont tout de même des fonctionnaires contractuels, avait engendré un problème de désignation. Selon lui, pour y remédier, la nouvelle appellation est désormais utilisée et l'annonce est régulièrement diffusée dans chaque complexe pour en informer le personnel et les visiteurs. En Corée du Sud, toute personne âgée de 19 ans ou plus peut rédiger à l'avance un document exprimant sa volonté concernant les traitements de maintien de vie et les soins palliatifs en prévision d'une situation où elle se trouverait en phase terminale. C'est ce qu'on appelle les directives anticipées sur les traitements de maintien de vie. Dernièrement, avec l'intérêt croissant pour le bien mourir, de plus en plus de gens choisissent de préparer ce document. Selon les statistiques, plus de 3 millions de personnes ont enregistré des directives anticipées précisant qu'elles ne souhaitent pas recevoir de soins de maintien de vie. En 2018, année où la loi sur la décision en matière de soins de maintien en vie est entrée en vigueur, leur nombre n'était que de 86 000. Depuis, il n'a cessé de croître pour franchir la barre du million en 2021 avant de dépasser les 2 millions deux ans plus tard. Fin juillet dernier, 1,9 million des inscrits étaient des femmes, soit presque le double des hommes. Le nombre d'inscriptions augmente avec l'âge. Les septuagénaires sont les plus nombreux avec 1,17 million, suivis des sexagénaires et des octogénaires. Notamment, 25% des femmes âgées de plus de 65 ans ont exprimé leur intention de refuser les soins de maintien en vie. Le nombre cumulé de patients dont ces traitements ont été interrompus sur la base des directives anticipées ou de documents similaires s'élève à 440 000. L'arrêt des soins tels que la réanimation cardio-pulmonaire et la ventilation artificielle n'est possible que pour les malades en phase terminale, sans espoir de guérison, dont l'état s'aggrave rapidement et la mort est imminente. Ainsi, la demande pour une mort digne prend de plus en plus d'ampleur. D'après une enquête, 92% des interrogés ont déclaré avoir l'intention d'arrêter les traitements s'ils devenaient des patients en phase terminale ou en fin de vie. Par ailleurs, 82% étaient pour la légalisation de la mort digne assistée, c'est-à-dire le suicide assisté par un médecin qui n'est actuellement pas autorisé. Dans ce contexte, le débat social s'intensifie concernant l'élargissement du champ d'application de l'interruption de ces soins, à présent limité à la phase terminale vers la phase avancée de la maladie où le décès est attendu dans les mois à venir. De ce fait, le gouvernement prévoit d'engager des discussions visant à avancer le moment de l'interruption à la phase avancée de la maladie. Ces derniers temps, une méthode de classification des types de personnalités selon les hormones sexuelles est en vogue en Corée du Sud, principalement parmi les jeunes dans la vingtaine et la trentaine. Il s'agit d'un mode de catégorisation des tendances individuelles basé sur les caractéristiques des deux hormones sexuelles, l'estrogène et la testostérone. Sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup de contenu qui explique les caractéristiques des types de personnalités selon cette méthode. Et les tests permettant de révéler sa propre tendance sont également plébiscités. Cette distinction associe les deux hormones aux normes sociales que sont la féminité et la masculinité. On considère que lorsqu'on a beaucoup de testostérone, la personnalité est entreprenante, active, directe et simple, tandis qu'un taux élevé d'estrogène correspond à un caractère doux, délicat et passif. Ainsi, les types de personnalités sont divisés en quatre catégories, Egennam, Egennyeom, Taedonam et Taetonyeom. Ces désignations sont des combinaisons des noms des deux hormones avec les mots coréens désignant l'homme Nam et la femme Nyeom. On classe les personnes dont le taux de testostérone semble élevé comme Taeto et celles qui auraient un taux d'estrogène important comme Egen. En général, les personnes ayant un fort leadership et beaucoup de passion sont qualifiées de Taeto, tandis que celles sensibles et délicates sont classées comme Egen. Sur les réseaux sociaux, les contenus à ce sujet circulent beaucoup, notamment ceux qui expliquent cette classification et qui proposent des tests pour distinguer les types sont populaires. Selon une plateforme qui en fournit, plus de 690 000 personnes en ont fait la demande. La popularité de cette méthode reflète un fort désir d'analyser et d'exprimer sa propre personnalité. En particulier, avec le développement des réseaux sociaux qui multiplient les occasions d'exposer son quotidien et ses tendances, cela peut être interprété comme une forme de jeu. Selon l'analyse d'un spécialiste, par le passé, l'identité s'exprimait à travers l'école ou la région. Mais récemment, on révèle ses caractéristiques et son sentiment d'appartenance par divers moyens. Dans ce contexte, dévoiler sa personnalité ainsi que ses goûts et établir des relations avec les autres est devenu une sorte de culture ludique sur les réseaux sociaux. Cependant, beaucoup craignent que ce mode de classification des personnalités selon les hormones sexuelles, sans fondement scientifique, ne risque de renforcer les stéréotypes liés au genre. D'après les experts, bien que chacun possède à la fois la féminité et la masculinité, cette méthode risque de faire percevoir les caractéristiques individuelles uniquement selon une dichotomie entre hommes et femmes. Ils ont également noté que si l'on s'y plonge excessivement, un effet de stigmatisation peut se produire. Il s'agit du phénomène selon lequel, une fois qu'une personne est étiquetée comme mauvaise, elle agit consciemment et inconsciemment conformément à cette étiquette, ce qui peut bloquer les diverses possibilités de développement personnel. Et voilà, c'est le moment de retrouver l'invité de mercredi présenté par Oh Ha-young. Avant de la rejoindre, écoutons une chanson de Kim Jang-hoon. Voici 나는 남자다, je suis un homme.
찾 mercredi vous êtes invité à découvrir une personnalité qui œuvre pour les échanges entre la Corée et le monde francophone. Vous êtes bien au 13 boulevard Yoi et vous avez rendez-vous avec Oh Ha-young et Kim Hong-joo.
Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints pour la seconde partie de notre entretien avec Park Chan-won. Mercredi dernier, ce réalisateur nous a parlé de l'évolution de l'image de la Corée en Suisse durant ces 40 dernières années. Et ce soir, nous allons enchaîner avec un tout autre sujet. Restez à l'écoute, vous êtes en compagnie de Wayang. Pour vous, Chan-won, il n'y a pas que la K-pop et de la K-food. Il y a un sujet qui a longtemps été tabou, l'adoption. Depuis quand vous vous intéressez aux adoptés coréens en Europe et plus particulièrement en Suisse?
Ma première rencontre avec des amis adoptés coréens en Suisse, c'était juste après que je suis arrivé à
au collège,
à l'âge de 12 ans. À l'âge de 13 ans, j'ai pu découvrir un ami qui est coréen, qui a un prénom coréen, mais avec un nom suisse. Et j'ai été voir chez lui, c'était des parents suisses. Et quand je lui ai invité à manger chez moi, il a goûté le kimchi. Ça lui a fait rappeler beaucoup de choses, comme souvenir de son enfance. Et là, je n'ai pas très bien compris, mais au fur et à mesure, j'ai pu rencontrer d'autres Coréens adoptés. Et ils m'ont parlé de leur recherche de biologique. Certains sont venus me demander à traduire de coréen en français.
Voilà, lettres, tout ça. Des documents.
Oui, j'ai pu leur aider à tout ça. Ça m'a touché depuis longtemps, pour ces gens-là, mais... j'ai travaillé longtemps dans l'audiovisuel en tant que monteur, producteur et maintenant réalisateur. Mes réalisations étaient mon rêve. J'ai eu un cancer il y a 3 ans et c'était un choc pour moi. Là, ma vie a basculé et c'est vrai que je pouvais pas travailler plus que 5 jours par semaine, par mois, pardon. Et voilà, je me suis dit maintenant, il faut que je réalise mon rêve. Et je me suis lancé un sujet sur K-Adoption. Je me suis lancé à ce projet depuis maintenant 3 ans. Et voilà, j'ai rencontré beaucoup de Coréens adoptés en Suisse. Ça représente quand même 1134 Coréens adoptés. Voilà.
Alors, sans trop dévoiler, qui sont-ils, vos protagonistes?
Juste après la guerre, en 1953, il y a eu les métis qui ont été adoptés de plus en plus. Ensuite, en l'année 70-80, il y a eu un pic, juste avant les Jeux olympiques, qui montait jusqu'à 11 000 adoptés internationaux par année, ce qui représente 20 à 30 adoptés par jour. C'est quand même impressionnant. Et voilà, un des protagonistes, c'est le métis, il s'appelle Lionel. La deuxième personne s'appelle Chae-hong. Et Chae-hong, longtemps, il croyait que son prénom était... c'était son prénom, mais en fait, c'était un prénom d'un autre adopté coréen. Donc le dossier a été soit manipulé ou falsifié ou mal ordonné. Donc lui, pendant 40 ans, il croyait à ce prénom, donc c'était un choc. Donc il essaie toujours de retrouver sa famille biologique, mais c'est toujours pas évident avec des documents qui sont pas justes. Troisième personne, je vais faire vite.
Prenez votre temps.
Merci. La troisième personne, elle a longtemps cherché leurs parents biologiques, ça fait 35 ans. C'est avec elle j'ai été témoigner sa recherche encore avec son père adoptif à Séoul. Elle s'est réalisée que tous ses papiers étaient falsifiés. C'était une longue recherche, mais avec le système ADN, ça aide. Donc, elle est en cours de ce projet. Donc, c'est un traumatisme de longue recherche de ses parents biologiques. Quatrième personne, c'est... En fait, elle a été adoptée à l'âge de 4 ans. Au bout de 2 ans, normalement, en 2 ans, la Suisse accepte leur enfant pour être naturalisé en Suisse. Mais cet enfant a été refusé d'adopter au bout de 2 ans. Donc elle a dû repartir pour chercher
une autre famille.
À vivre d'un foyer à l'autre pendant longtemps. Et c'était un traumatisme, double rejet par deux pays. Donc c'est difficile. Et puis la cinquième, c'est un sujet très délicat. C'est sur l'inceste. Il y a eu un problème d'harcèlement sexuel envers des enfants. Enfin bref, tout ça vous allez découvrir dans le film.
Donc avec votre équipe, vous avez donc pu venir en mai en Corée. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé.
Alors, ils étaient très surpris parce que...
Vous étiez combien ?
Alors, j'ai amené mon caméraman, notre caméraman, Walter, qui est très bon caméraman, qui a pris sa retraite. Et un autre ami journaliste, Nicolas Burgi, que les deux sont venus pour la première fois en Corée. Pour moi, c'était essentiel. On a pu prendre une preneuse de son en Corée.
Sur place.
Et puis voilà, j'ai pu interpréter, en même temps réaliser... avec ces deux langues.
Plusieurs casquettes.
Voilà, ouais. Et ils ont adoré la Corée. C'est vrai, ils étaient surpris quand une Française a dit « Nous, on peut marcher à 11h, minuit ou 1h du matin dans la nuit de Séoul parce qu'on est en sécurité. » Donc ça, ça leur a surpris. Ils m'en parlent à chaque fois quand je le rappelle.
Donc là, vous allez bientôt commencer le montage. Alors, quand pensez-vous pouvoir le finir et où pourra-t-on voir ce documentaire sur l'adoption ?
Là, on est encore en production. J'ai encore le tournage à la fin du mois d'août et début septembre. Une fois que c'est finalisé, je vais commencer le montage sérieusement jusqu'à décembre. C'est comme une thèse parce que c'est...
C'est sans fin ?
Il y a eu 15 personnes témoigner. Ils racontent pendant 1h30. Donc, c'est à étudier ce qu'ils disent et comment s'enchaîner. Parce qu'il n'y aura pas de narration journaliste ni de ma voix. Ce sera uniquement avec leur narration. C'est quelque chose de réel. Je vais leur montrer le film montage finalisé à chaque protagoniste. Une fois validé, je pense début de l'année prochaine, sera la diffusion. Participation au festival.
Festival. Et après l'adoption, dans quel domaine souhaitez-vous vous pencher ?
Alors, il y a beaucoup de sujets. Moi, j'aime donner, montrer des gens qui ont des petites voix. Parce que j'ai longtemps travaillé pour Nations Unies comme haute commissariat de droits de l'homme. Pendant 12 ans, j'étais producteur pour les différents portraits. J'ai produit des différents portraits des humanitaires. Et c'est vrai que ce sont des gens magnifiques, mais réussis. Mais il y a toujours des gens qui sont discrets, qui n'ont pas les moyens de s'exprimer, qui sont silencieux. Donc voilà, je cherche tous ces gens à raconter. Il y a parmi eux, il y a des sourds malentendants comme moi. Je suis malentendant depuis l'âge de 4 ans. Je porte des appareils auditifs. C'est quelque chose qui est personnel, personne ne connaît. J'ai dû me battre longtemps pour ça. Et je pense qu'il y a d'autres victimes comme moi qui souffrent avec cet handicap. Il y a tellement de sujets sur... Je suis réalisateur, mais j'aime créer, j'aime des idées un peu différentes des autres.
Merci Shannon pour cet entretien et nous vous souhaitons beaucoup de succès pour tous vos projets. et un bon rétablissement.
Merci de m'avoir invité au rayon. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Koh Jong-sun avec Oh Ha-young à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée à tous.